Toi, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du lundi 15 mars 2021. Eric Manelakidza à la présentation. Voici d'abord les titres. Au Mali, un tribunal a ordonné la fin sans verdict du procès de l'ex-putschiste Sanogo. En RDC, au moins 15 civils massacrés par des présumés combattants ougandais ADF dans l'Est. Plusieurs pays suspendent l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca après de graves problèmes sanguins chez des vaccinés. Les chefs américains de la diplomatie et de la défense entament leur tournée asiatique. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Au Mali, la cour d'assises de Bamako a ordonné lundi la fin du procès pour assassinat contre le général malien Amadou Sanogo et une quinzaine de ses co-accusés. De Bamako, la correspondance de Bagassi Koura.
Ce matin, la cour d'assises de Bamako a mis fin au procès sans prononcer de verdict. Pour ce faire, la cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation nationale et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. La cour a également évoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Sur la base de la loi d'entente, le protocole d'accord signé entre le gouvernement de la République et les victimes, la Cour ordonne que l'action soit éteinte contre les inculpés, qu'ils soient immédiatement libérés si aucune autre charge n'est retenue contre eux, a annoncé le président de la Cour, Gaussou Sanou. Le général Sanogo a mené en 2012 un putsch pour devenir brièvement chef de l'État, mais lui et ses co-accusés, soldats et gendarmes, étaient jugés non pas pour le dit putsch de 2012, mais pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 membres d'une unité d'élite, les Bérets Rouges. Les avocats des victimes étaient absents à l'audience de ce jour, qu'ils ont boycotté. Bagassi Koura, Bamako pour VOA Africa.
La police tchadienne a reçu lundi 120 véhicules neufs pour restaurer l'autorité de l'État à un mois de la présidentielle que le sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et accusé de réprimer l'opposition, semble assuré de remporter. Trois enseignants ont été enlevés lundi matin dans l'attaque de l'école primaire située dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Aucun élève ne manque finalement à l'appel, ont indiqué les autorités locales dans un nouveau communiqué. Il s'agit de la sixième attaque ou tentative d'attaque d'école en moins de trois mois dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Des groupes criminels appelés bandits par les autorités attaque des villages, vol du bétail et pratique des enlèvements contre un rançon. Nouvelle tuerie dans la région de Beni dans l'est de la RDC. Au moins 15 civils tués par les rebelles des ADF. Les notables de la région mettent la pression à la mission onusienne MONUSCO en RDC avec un ultimatum d'un mois pour des actions concrètes sur terrain. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, fait le point.
La commune rurale de Bulongo, dans les Rwenzori, attaquée cette nuit, s'est située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni, sur l'axe qui mène vers Ouganda. C'était autour des 22h heure locale et la nuit dernière que les assaillants islamistes ont mené silencieusement cette attaque à l'arme blanche alors que la population dormait. Les premiers bilans fait état de 14 personnes tuées, magasins et officines pharmaceutiques pillées par les assaillants qui se sont volatilisés dans la brousse en tirant des coups de feu, selon les sources locales qui signalent aussi des personnes portées disparues. Ce matin, les jeunes en colère ont manifesté dans les centres commerciaux de Bulongo avec les corps sans vie des victimes de l'attaque. En voulant disperser les manifestants, la police a tiré sur un jeune qui a succombé à ses blessures. Devant la presse à Goma, le député élu de Beni, Muhindo Mangezi, lui, a donné un ultimatum d'un mois à la mission onusienne en RDC pour laquelle il demande des actions concrètes.
Pour un ultimatum d'un mois, jusqu'au 15 avril, que la MONUSCO nous montre les actions concrètes sur le terrain jusqu'à ce que la population soit rassurée que réellement les États-Unis ont reconnu le terrorisme au niveau du territoire de Beni. Comme elle dit chaque fois que là, la logistique est démontrée vraiment cette logistique-là sur terrain et non pas par la bouche.
Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
L'ancien chanteur et leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, a été arrêté lundi. Il manifestait à Kampala contre le chef de l'État, Yoweri Museveni, selon un message posté sur son compte Twitter. Bobi Wine était le principal rival du président Museveni lors de la présidentielle du 14 janvier. La semaine dernière, il avait appelé la population à se soulever pacifiquement et à manifester contre Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Le député de 39 ans dénonce une mascarade lors de l'élection. Le premier ministre libyen Abdelhamid Beiba, qui doit gérer la transition jusqu'aux élections prévues en décembre, a prêté serment lundi, plus d'un mois après sa désignation, dans le cadre d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir la Libye d'une décennie de chaos. La Somalie et le Kenya s'opposent depuis plusieurs années sur le tracé de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien, avec en jeu une vaste zone de 100 000 km² riche en poissons et en potentiel hydrocarbures. Ce différend est examiné depuis lundi par la Cour internationale de justice de La Haye, malgré l'absence annoncée des représentants du Kenya. Plusieurs pays dans le monde ont suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, des suspensions par principe de prudence après des graves effets secondaires ou des décès de quelques personnes vaccinées, même si aucun lien n'a encore été prouvé. Mohamedou Onfa fait le point.
Le Danemark a été le premier pays jeudi à suspendre le vaccin d'AstraZeneca après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. Il a rapidement été suivi par la Norvège qui dit avoir en outre constaté des cas d'hémorragie cutanée chez des personnes vaccinées. Aucun lien n'est encore établi, préviennent toutefois les autorités de ces pays. La Bulgarie a suspendu par précaution les injections de ce vaccin après le décès d'une femme vaccinée qui souffrait de surpoids et avait subi plusieurs pontages coronariens. En France, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont suspendu la vaccination de leur personnel après l'hospitalisation d'un pompier pour une arythmie cardiaque survenue après sa première injection. L'Autriche, l'Estonie, l'Allemagne, la France, la Lettonie, l'Islande et une dizaine d'autres pays ont suspendu l'utilisation de tout ou une partie des lots de ce vaccin. Pour sa part, le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a aucune preuve de risque aggravé de caillots sanguins entraînés par son vaccin. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce vaccin.
L'OMS, en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, va réunir demain mardi son groupe d'experts sur la vaccination pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca, a annoncé le chef de l'agence onusienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue de la défense Lloyd Austin sont arrivés lundi à Tokyo. Ils entament ainsi leur premier déplacement à l'étranger visant à renforcer les liens des États-Unis avec leurs partenaires asiatiques face à la Chine. Le point avec Abdulrahman Dia.
Les deux responsables américains qui ont voyagé séparément s'entretiendront mardi avec leurs homologues japonais ainsi qu'avec le premier ministre Yoshihide Suga qui doit rencontrer le président américain Joe Biden le mois prochain à Washington. M. Blinken et Austin ont ensuite prévu de se rendre en Corée du Sud mercredi, puis le chef de la diplomatie américaine a rendez-vous jeudi en Alaska avec le numéro 1 de la diplomatie chinoise, tandis que le patron du Pentagone se rendra en Inde en fin de semaine. Le but de cette tournée est de revitaliser nos liens avec nos amis et partenaires, ont souligné M. Blinken et Austin dans une tribune publiée lundi dans le Washington Post. Ensemble, nous tiendrons la Chine responsable quand elle viole les droits de l'homme dans le Xinjiang et au Tibet, érode systématiquement l'autonomie de Hong Kong, sape la démocratie à Taïwan ou revendique des territoires maritimes en mer de Chine méridionale en violation des traités internationaux, ont-ils écrit. Cette tournée en Asie suit un sommet inédit du Quad, une alliance informelle entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, née dans les années 2000 pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine.
Le président américain Joe Biden a affiché sa volonté de relancer les pourparlers pour mettre fin au long conflit au Yémen. Le nouvel émissaire américain pour le Yémen, Tim Lender King, a rencontré en tête-à-tête des rebelles houthis soutenus par l'Iran. Ces rebelles houthis ont qualifié lundi de positif les propos du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le soutien des États-Unis à un Yémen libre de toute influence étrangère, tout en affirmant que ces déclarations devaient être suivies d'actions. L'opposant russe Alexei Navalny a dénoncé lundi être incarcéré dans un camp de concentration dans un message sur son compte Instagram. La sortie de l'impasse sur l'accord nucléaire impose un compromis entre Washington et Téhéran, a déclaré lundi le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif au cours d'une visioconférence organisée à Bruxelles. Merci pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
La Banque africaine de développement prévoit une croissance de 3,4% en 2021 pour le continent. C'est ce qu'indique son dernier rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique. Ce rebond devrait effacer une récession de 2,1% subie en 2020, la première depuis 50 ans et qui, avec l'épidémie du nouveau coronavirus, est à l'origine du basculement de 30 millions de personnes dans la pauvreté. Le Fonds de l'environnement mondial a accordé un appui financier de 7 milliards de francs CFA au Cameroun en vue de renforcer la gouvernance forestière communautaire à travers l'investissement privé, notamment dans les domaines du tourisme et du développement local. Ce financement couvre la période 2021-2026 et fait partie du programme de gestion intégrée des forêts du bassin du Congo, le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie. Les 5 pays membres du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, appellent à une restructuration profonde de leurs dettes afin de leur permettre de continuer à répondre aux attentes urgentes et légitimes de leur population en matière de sécurité et de développement. Les pays du G5 Sahel consacrent entre 17 et 30% de leur budget aux dépenses militaires et sécuritaires.
En transition, nous passons à votre page d'espoir. Ce soir, nous retrouvons Nanit Tetalani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA, s'est réuni pour décider de l'organisation de ces compétitions de football cette année. La Fédération d'Ivoussienne de football organisera la Coupe Challenge Femmes Seniors 2021, une première dans l'histoire du Djibouti. L'Ouganda accueillera la Coupe Challenge Féminine des moins de 20 ans, tandis que le championnat interclub Kagame se déroulera en Tanzanie. L'Éthiopie se chargera de la Challenge Cup masculine qui cette fois sera jouée par des moins de 23 ans. Pour se qualifier pour la première ligue des champions féminines de la CAF, le Kenya accueillera la qualification de zone. Tous les membres ont déjà confirmé leur participation à la Ligue des champions féminines, à l'exception de l'Érythrée et du Rwanda, dont on attend encore la confirmation. La Somalie, elle, ne prendra pas part aux qualifications de la dite Ligue. La star portugaise Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé hier avec la Juventus à Cagliari 3-1, a désormais marqué plus de buts en match officiel, dépassant le roi Pelé. La star de 36 ans aux 5 ballons d'or, qui a totalisé en tout 770 buts en rencontre officielle, est donc désormais le meilleur buteur de l'histoire du football. Même si ce titre honorifique reste l'objet de débats, les chiffres divergent selon les sources et les matchs pris en compte ou non. Le roi Pelé l'a félicité pour avoir battu son record de buts en match officiel, soit 767 buts selon la plupart des sources. Dans un post publié sur Instagram, Ronaldo fait part de sa joie et sa fierté d'être au sommet du classement mondial des buteurs en dépassant le record de Pelé, une chose dont je n'aurais jamais rêvé enfant, reconnaît-il. Les 770 buts de Ronaldo ont été marqués comme suit: 5 pour le Sporting Lisbonne, 118 pour Manchester United, 450 pour le Real Madrid et 95 pour la Juventus Turin, soit 668 buts en club, auxquels s'ajoutent 102 réalisations avec le Portugal. Terminons par l'attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, 16 ans, qui a été appelé par Stéphane Kuntz, le sélectionneur des espoirs allemands, pour participer à l'Euro des moins de 21 ans, dont les premiers tours se disputeront le 24 mars. Le natif de Yaoundé est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire à être appelé dans cette catégorie. Un nouveau record de précocité pour Youssoupha Moukoko, le seul à avoir joué à l'âge de 13 ans en Bundesliga des moins de 17 ans pour Dortmund. Ce week-end, avec le Borussia Dortmund face au Hertha Berlin, l'attaquant de 16 ans et 113 jours est aussi devenu le plus jeune joueur à inscrire 3 buts dans les 5 grands championnats.
C'était les sports de Danit Sylvani Talani. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandrakiza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La cour d'assises de Bamako a ordonné lundi la fin sans verdict du procès pour assassinat contre le général Amadou Sanogo, meneur d'un putsch en 2012 et brièvement chef de l'État, et une quinzaine de co-accusés. La cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation nationale, ainsi qu'un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Le général Sanogo et ses co-accusés étaient jugés pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 membres des Bérets Rouges, une unité d'élite. Leurs avocats ont salué la décision judiciaire. Ceux de la partie civile ont boycotté l'audience de Bamako, compte rendu de Lamissa Sangaré et de Bagassikoura.
Un mois après le coup d'État de 2012 mené par le général Sanogo, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-putsch brutalement réprimé par les nouveaux maîtres de Bamako et par les Bérets Verts qui leur étaient acquis. Les corps de 21 d'entre eux avaient été retrouvés dans un charnier en décembre 2013. Amadou Sanogo a été rapidement contraint de céder le pouvoir à des autorités civiles. Il avait été ensuite élevé au rang de général 4 étoiles, promotion considérée comme politique, mais fin 2013, il avait été arrêté pour son implication présumée dans l'assassinat des Bérets Rouges. Et depuis, le procès a traîné. En janvier 2020, les mises en cause, y compris le général Sanogo, ont été relâchées après 6 années de détention. Ce matin, la libération immédiate de tous les inculpés a été prononcée.
J'ai cru et Dieu tu m'as donné raison. Je lui dis encore une fois de plus merci.
Maître Tchessolo Konare est avocat de la défense.
Parce que le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées.
La Cour a invoqué notamment une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. La Cour a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles.
C'est une jurisprudence, mais c'est une application de la loi, vraiment.
Maître Alassane Sangaré est avocat de la défense.
C'est une application de la loi. C'est pour la première fois quand même que cette loi est évoquée devant une cour d'assises. Et lorsque la cour d'assises rend un arrêt, on peut dire que cet arrêt peut avoir valeur de jurisprudence. Et c'est un grand pas. C'est un grand pas. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, malgré tout ce qu'on reproche à notre justice, moi, je crois à la justice. Je crois à la justice.
En entendant que les accusés ne seraient pas punis, Amina Soumaré n'a pu se retenir, elle qui dit avoir été enlevée et violée par les accusés.
C'est la honte de la justice malienne et c'est la honte pour les juges du Mali en libérant Aya qui a massacré les gens, qui a enlevé les femmes, qui les a violées. Et c'est la honte aujourd'hui. Cette date doit être inscrite dans l'histoire du Mali. On ne peut pas faire la réconciliation sur la base des mensonges d'arrangement.
La Cour a décidé de mettre un terme à un procès gênant pour les autorités actuelles du Mali qui craignent de possibles dissensions que ce procès pourrait susciter au sein de l'armée. Bagassikoura, Lamissa Sangaré, Bamako pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM, c'est VOA Afrique 24h sur 24.
Au Cameroun, Human Rights Watch dénonce les exactions des groupes armés séparatistes dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Les séparatistes sont accusés d'avoir, entre autres, imposé un boycott des établissements scolaires dans les mêmes régions. Human Rights Watch constate aussi un regain de violence commise par les séparatistes depuis 2 mois. Pour en parler, John Lindon a joint à Douala Iler Kamga, porte-parole de la plateforme pour la démocratie.
Comme toute organisation en droit de l'homme, Human Rights Watch doit tenir les gouvernements responsables. Maintenant, sur le cas du Cameroun, il y a eu un lever de bouclier après le dernier rapport sur les exactions commises par le gouvernement, par les soldats camerounais. Il était de bon ton que s'il y a une situation où les séparatistes sont seuls mis en exergue, qu'en attendant un rapport que le Human Rights Watch publie cette situation. Donc voilà la lecture que j'en fais.
Alors, dans l'article qui dénonce ces comportements de séparatistes, l'auteur de l'article, Ilaria Legrosi, parle notamment des rançons. Et c'est lundi 15 mars, Equinox Radio parle de cette journaliste de la CRTV qui a été enlevée à Boya et ses ravisseurs exigeraient le paiement d'une rançon de 10 millions de francs CFA. Les revendications des séparatistes ont visiblement pris un autre tournant.
Mais il faut déjà noter ici que l'enlisement que connaît la crise aujourd'hui fait que dans cette zone, dans les zones en région anglophone aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout sur le dos des combattants séparatistes à la réalité. Il y a une industrie de la guerre qui s'est développée avec des groupes qui très souvent n'ont rien à voir avec le leadership séparatiste qui a des revendications assez claires. Moi, je pense que c'est l'amalgame qu'on fait, y compris dans les radios locales, de mettre sur le dos des séparatistes ou alors des combattants reconnus comme séparatistes, des exactions des groupes de bandits qui aujourd'hui opèrent et demandent des rançons pour les gens qu'ils enlèvent de part et d'autre. Il me semble qu'il n'y a pas eu un communiqué d'un des mouvements connus séparatistes qui aurait revendiqué cette demande des rançons.
Alors, si on suit votre logique, d'où viendraient donc ces petits groupes des bandits, entre guillemets?
Mais il est tout à fait normal que lorsqu'une zone devient incontrôlée par l'armée régulière, à partir de l'instant où les groupes séparatistes eux-mêmes ne sont pas capables d'avoir une hiérarchie de commandement qui maîtrise les zones où ils sont supposés avoir pignon sur rue, à partir de cet instant, les bandits vont se déployer. Et naturellement, l'industrie de la guerre se met en place, pas forcément au nom de la cause qui est menée par les groupes séparatistes. Donc, il y a une industrie de la guerre sur place, il y a des gens qui contrôlent des quartiers, qui demandent des rançons, qui demandent des impôts, qui très souvent, moi j'ai fait des enquêtes avec nos équipes sur place dans les régions nord et sud-ouest, ce n'est pas toujours les mouvements séparatistes qui revendiquent l'indépendance ou alors plus de guerre pour leur région. Ce n'est pas toujours eux qui sont derrière un certain type d'évasion, mais on leur colle tout cela sur le dos et c'est de bonne guerre, il me semble.
Iler Kamga, porte-parole de la plateforme pour la démocratie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République centrafricaine, près de 2 millions d'électeurs étaient appelés dimanche aux urnes. Ils élisaient leurs députés dans le cadre des partiels et du second tour des législatives. Malgré le contexte sécuritaire instable, le scrutin s'est déroulé de manière générale dans le calme. À Bangui, pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
C'est un pari réussi pour les autorités centrafricaines et l'agence en charge d'organisation de ces élections. Contrairement au scrutin du 27 décembre dernier, émaillé de violences armées, le vote de ce dimanche 14 mars s'est plutôt déroulé dans le calme à Bangui comme à l'intérieur du pays. Et Vaudi, une électrice que nous avons rencontrée dans un centre de vote du 5e arrondissement de Bangui, est contente d'avoir rempli son devoir civique.
Ma satisfaction est très grande parce que je suis venue, je vois le temps est calme. J'ai voté, je suis dans la joie parce que le premier tour des élections, je n'étais pas au pays.
Même si aucun incident majeur n'a été rapporté, certains dysfonctionnements ont été constatés. Plusieurs électeurs n'ont pas été autorisés à voter avec leur récépissé de carte d'électeur, pourtant acceptable selon les dispositions en vigueur. Richard Guérec-Bagba, membre de l'Autorité nationale des élections et superviseur dans le 6e arrondissement, apporte des éclaircissements sur cette décision.
Le problème, c'est que qu'il y a des gens qui n'ont pas leur nom sur la liste, mais ils ont des récépissés et veulent voter. Or, cela, c'est pas possible. Et j'ai essayé de leur expliquer ça, que c'était ensemble, pendant le premier tour, on a fait des réunions. Avec les candidats, le vote par récépissé est possible à condition que la personne puisse avoir son nom sur la liste électorale. Même s'il n'y a pas de récépissé et la personne a son nom sur la liste électorale avec une pièce d'identité, passeport ou un permis de conduire, la personne peut voter.
Au plan organisationnel, plusieurs observateurs électoraux ont noté une nette amélioration dans l'organisation de ce scrutin. Certains candidats s'en réjouissent, même à l'exemple de Jean-Saint Fourier Mapézi, candidat dans la circonscription de Bimbo 2.
Voter est un droit, mais également un devoir pour tout citoyen pour choisir ses dirigeants. J'ai vu que très tôt déjà dans le bureau de vote dans lequel j'ai voté, il y a eu déjà plusieurs électeurs. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Quand vous voyez au premier tour, il y avait quelques manquements sur le plan organisationnel, mais tout a été corrigé et donc je demeure plus que confiant pour la suite.
Sur les 118 circonscriptions concernées par ces législatives, le vote a pu se dérouler dans au moins 110. Une satisfaction pour l'Autorité nationale des élections. Théophile Moumoukouama, son porte-parole.
Sur les 118 circonscriptions électorales pour lesquelles nous avons pu nous déployer ou tenter de nous déployer pour pouvoir organiser ces scrutins, quelques rares n'ont pas pu voir les bureaux de vote accueillir les électeurs. Je peux citer le cas de Bakouma, où les groupes armés sont encore installés fortement. Je donne l'exemple de Gadi, qui connaît le même sort. Je donne l'exemple de Yalinga, où on n'a pas pu organiser les élections. Nous n'avons pas pu organiser les élections dans Kabo 2, notamment à Moïse-Sido, pas pour des raisons sécuritaires, mais pour des raisons logistiques. Il y a eu des erreurs matérielles sur les bulletins de vote dédiés donc au vote dans cette circonscription. Et donc, voilà un peu les quelques rares situations que nous allons certainement gérer.
Les législatives de ce 14 mars se sont déroulées dans un contexte où l'armée nationale et ses alliés poursuivent la reconquête des villes occupées par la rébellion de la CPC, laquelle rébellion avait perturbé le déroulement de la présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020 dans plusieurs régions du pays. Frimansi Pila Bongui pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'administration Biden entre succès et défi. Le président américain vient de remporter sa première grande victoire législative avec l'adoption d'un vaste plan de relance économique de près de 2000 milliards de dollars. Un plan adopté au Congrès sans le soutien des républicains. Ces derniers, par ailleurs, critiquent le président Biden dans son approche sur l'immigration qui, selon eux, a conduit à une nouvelle crise à la frontière avec le Mexique. Plus de 4000 mineurs non accompagnés sont entre les mains des autorités et le nombre s'accroît au quotidien. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Cette semaine, le président Joe Biden entame une tournée ici aux États-Unis. Après avoir promulgué un plan de relance économique de 1900 milliards de dollars, les Américains commencent à recevoir les chèques prévus dans ce plan. Pendant ce temps, à Washington, les élus débattent de la manière de gérer la vague de migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis. Le point avec Michel Quinn de la VOA, récit Jacques Aristide.
Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris effectuent le voyage dans le cadre d'un périple baptisé « Help is here », comprenez, l'aide est là. Objectif, promouvoir le plan de relance économique de 1900 milliards de dollars que le locataire de la Maison Blanche a promulgué la semaine dernière. Présenté comme l'une des mesures de lutte contre la pauvreté les plus importantes depuis des décennies, le plan comprend des chèques et virements de 1400 dollars pour de nombreux Américains, de même qu'un nouveau crédit d'impôt de 3 600 dollars par enfant pour les parents. Aucun élu républicain n'a voté pour le plan, le jugeant gargantuesque et mal ciblé. Le sénateur John Barrasso est un républicain du Wyoming.
Les républicains veulent s'assurer que les gens reçoivent le vaccin, que les enfants retournent à l'école, que les gens retournent au travail. Mais nous n'allons pas appuyer les démocrates alors qu'ils tentent d'exploiter une crise.
Les démocrates, eux, mettent en exergue de récents sondages qui montrent que la majorité des Américains soutient le plan. Une étude d'opinion réalisée par CNN, par exemple, a révélé que 61% des sondés soutiennent les mesures d'aide. Pour la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, élue démocrate de San Francisco, c'est uniquement à Washington que le soutien républicain fait défaut.
Vous pouvez être sûr que tous les États et communautés en bénéficieront et ils ne s'en plaindront pas chez eux.
Pendant ce temps, à Washington, les élus sont en désaccord sur la façon de gérer l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis. La situation a conduit des parlementaires à se pointer du doigt les uns les autres. Certains républicains affirment que c'est le démantèlement par le président Biden des mesures d'immigration mises en œuvre par son prédécesseur Donald Trump qui a entraîné la flambée. Mais les démocrates, pour leur part, affirment que ce sont au contraire les politiques de Trump qui ont abouti à la situation actuelle.
C'est la fin de ce journal. À la mise en onde, Lionel Nanila Kahima, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Josène Morissin. À la présentation, Eric Manilakiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.